Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, en direct, vous le savez, tout l'été jusqu'à midi, le samedi et le dimanche. Fred Weiss, Pascal Duprat, Ludo Duchesne. Excusez-moi, il y a Fred qui me regarde. Qu'est-ce qui se passe, Fred ?
Rien, je te regarde, je t'écoute.
Ah, oui.
Je suis peut-être le seul ici à cette table qui t'écoute. Tu devrais être content.
Non, mais ton regard était à la fois interrogateur, admirateur peut-être.
Admirateur plutôt.
Ah, plutôt admirateur, oui. C'est ça.
Cette beauté, là, moi, ça m'a
suffisamment. Je comprends. Si vous avez de la chance de vous réveiller seulement maintenant, vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant. N'hésitez pas sur l'appli RMC. Et puis, dans 30 minutes, on va ouvrir le dossier des GG autour des déclarations de Stuart Lancaster, l'ancien manager du Racing, qui a révélé des méthodes de management plutôt surprenante. Il faut vraiment être à l'écoute parce que si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vraiment écoutez des méthodes très particulières de Stuart Lancaster. Et puis à 11h45, le débat caché, vous ne savez absolument rien. On est d'accord, les gars.
On ne sait rien.
Et vous devez débattre pourtant. Vous n'avez pas une petite idée là ?
Pas du tout.
Ouais, non, pas du tout. Non.
Pascal ? Non.
Ballon d'or ?
Non, pas du tout. Non.
Ballon d'or ? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ballon d'or.
Ah, bah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Ah,
c'est
ou donc, sur le basket pour terminer la.
Sur le basket, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Non. Je
les réseaux sociaux et Violette d'Orange, peut-être.
Tu vois, ben ça, c'est un débat qui aurait pu m'intéresser, mais ça pourrait être
c'est
ça.
C'est tout ce que j'ai fait de la journée. Je préfère vous le dire.
Violette d'Orange ou le carton orange ?
Ou le carton orange, effectivement.
Voilà.
Bonne question.
Pourquoi ?
Belle transition.
Bravo.
Bon, on verra. Pas ça, donc. Ça sera 11h45. Mais d'abord, on va prendre un petit coup de vieux, tiens, dans les GG.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
La retraite, l'un des moments les plus délicats à gérer.
Mais le jeu est toujours sur le côté gauche.
Oui, oui, Olivier Giroud ! Olivier Giroud !
Certains l'attendent pendant des années. Et pourtant, quand elle arrive, il se peut parfois que rien ne se passe comme prévu.
Ça revient sur le pied droit de Pogba.
Et pourtant, ils ont fini par trouver leur équilibre.
Le décalage pour Thauvin. Thauvin dans la surface de réparation. Pas de faute. Attention, le contre est favorable. La frappe de Thauvin. Et le but pour l'Olympique de Marseille à la 32e minute.
Et leur maison de retraite, ça je te jure sur ma tête, nous on n'ira jamais.
La Liga qui va donc retrouver sur les pelouses les champions du monde 98. Florian Thauvin a été officialisé hier à Lens, nouveau numéro 10 du Racing Club de Lens, recruté pour 6 millions d'euros. Il retrouve la Liga à 32 ans, 4 ans après son départ de l'OM. Entre-temps, il est passé au Tigres de Monterrey au Mexique et à l'Udinese en Italie. Olivier Giroud a rejoint Lille à 38 ans pour boucler la boucle d'une carrière qui l'a commencé à Grenoble il y a 20 ans. Et puis Paul Pogba, 32 ans, va disputer cette saison ses premiers matchs en Ligue 1. Lui qui n'a jamais disputé de match en pro à l'époque, puisqu'il avait quitté le Havre très tôt pour Manchester United. Il sera avec l'AS Monaco un petit peu plus tard, puisque pour l'instant, il est encore en préparation. Des visages familiers, les GG, mais qui posent question. Est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe pour la Ligue 1 ? 32-16 pour nous rejoindre. Pascal Duprat.
Un bon signe.
Fred Weiss.
Un mauvais signe.
Ludo Duchesne.
Ça ne peut pas être un mauvais signe.
C'est donc un bon signe. On a encore le tandem Duprat-Duchesne face à Fred Weiss dans cette émission. Juste avant de vous entendre, je voudrais vous faire écouter ce qui s'est passé cette semaine au moment où Florian Thauvin est arrivé à 1000 pieds à l'aéroport de Lille avant donc de rejoindre le Racing Club de Lens. Écoutez. Voilà, des supporters évidemment heureux de l'arrivée, du retour en France de Florian Thauvin. C'était le cas également pour Olivier Giroud quand il est arrivé à Lille. Et puis Pogba, qu'on a vu d'ailleurs hier, applaudi au Stade Louis II avant un match de gala face à l'Inter.
Pas à Monaco, parce que quand il est arrivé, il y avait personne.
Non. Mais en revanche, à Louis II, hier, il y avait vraiment du monde.
Bien
et,
sûr,
et ça a été un des joueurs les plus applaudis hier sur la pelouse, même s'il ne peut toujours pas jouer. Alors, pourquoi tu dis, Fred, que c'est un mauvais signe ?
Alors, quand je vois mes collègues, je me dis que eux doivent se dire que c'est génial de devenir le cimetière des éléphants. Ça doit être super d'accueillir les vieux. Je pense qu'à un moment, on va prendre des gens avec un déambulateur pour jouer. Parce que quand on pense à Pogba, il n'a pas joué depuis 2 ans. Giroud, il sort de sa pré-retraite en MLS. On ne sait pas ce que ça peut donner. Thauvin, alors à la limite, lui, même si au Mexique ça s'est pas bien passé, on sait qu'à l'Udinese, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mais à un moment, prendre que des vieux, là, ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle un truc.
Que des vieux.
La Saudi Pro League. Vous savez, c'est cette ligue qu'on critiquait tous parce que, oh là là, il y a que des vieux qui y vont, tout ça. Eh ben, vous savez, les recrutements de le Saudi Pro League, Boisbré et Zézé, par exemple. Alors que nous, on récupère des anciens. Alors, si on veut être une ligue qui récupère ses anciens parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'arrive pas à avoir des jeunes, parce qu'on préfère les laisser partir, et se dire que récupérer des vieux, c'est mieux que générer des jeunes, eh ben, continuons. Mais moi, je peux comprendre. Mes deux compères sont plus âgés que moi, pas de beaucoup pour certains. Mais ils sont beaucoup plus nostalgiques, apparemment.
Bon, après, moi, j'ai dit 98 depuis tout à l'heure, c'est 2018, 2018 évidemment. Bon. Ils sont pas si vieux que ça.
On avait tous compris.
C'était une petite blague.
C'était vraiment déambulateur.
98, ils sont sur RMC peut-être, mais pas sur les terrains.
Ouais, non. Les trois cas sont différents. Quand Floyd nous dit que c'est des vieux retraités, pardon, Florian Thauvin a 32 ans, il est préconvoqué en équipe de France.
Ça s'est bien passé pour lui au Mexique d'ailleurs, juste avant la Udinese.
Fred, t'as le droit d'avoir des échecs dans ta carrière, c'est pas pour ça qu'il ne doit pas revenir en Ligue 1. Donc, et le projet aujourd'hui à Lens est construit autour de lui, donc c'est bien un signe. Mais en tout cas, lui et Paul Pogba ont pour objectif de jouer la prochaine Coupe du Monde. Donc le fait que de tels joueurs avec un tel palmarès, avec une telle ancienneté, j'ai calculé les trois là, 238 sélections en équipe de France. Et on voudrait nous dire que c'est un mauvais signe.
C'est extraordinaire d'avoir
autant d'expérience, autant de popularité. Tu le vois, ils sont accueillis comme des stars. Les gamins sont comme des fous. Tu vois Giroud, même s'il a 38 ans, il vient finir sa carrière à Lille. Il va aider les jeunes joueurs. Il va apporter toute son expérience. Le mec, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de
la
France.
Voudrait
nous dire, c'est pas un bon signe.
C'est génial, parce que la MLS, c'est la retraite.
C'est juste génial. Moi, je trouve, mais justement, il fait un énorme effort pour
sortir de sa retraite.
De sa pré-retraite pour venir en Ligue 1. Parce qu'il sait que c'est pas du tout la même histoire. Et quand tu parles de Pogba, alors oui, c'est un pari parce qu'il a pas joué depuis longtemps. On se rappelle quand même quel joueur il a été. Et Florian Thauvin, qui lui est toujours au très haut niveau. Il a fait une très bonne saison avec l'Udinese. Et tente sa chance, il revient donc à Lens. Bon, là où c'est un peu drôle, caustique, c'est que il a failli signer à Lille. Enfin, il avait signé à Lille d'ailleurs.
Il est resté qu'un jour sans jouer.
Ouais, il n'a fait qu'un entraînement. Donc ça lui fait mal aux Lillois. Mais en ce qui concerne les Lensois et Jean-Louis Leca et Benjamin Parot, que je connais très bien et qui sont ultra performants, je crois que c'est vraiment Jean-Louis Leca qui a fait en sorte que Florent Thauvin arrive ici à Lens. Je trouve que c'est un très très bon coup, et voir ces trois joueurs en Ligue 1, c'est réconfortant et c'est très bon pour l'image de la Ligue 1. Moi, je suis très content.
Alors,
de les
ça soit bien pour l'image, oui, mais est-ce que c'est bon signe? C'est la question, parce que effectivement, Pascal, cette Ligue 1, dont on sait les difficultés financières qu'elle a aujourd'hui, doit se réjouir de la arrivée de joueurs, alors certes peut-être les cas sont différents, de joueurs visibles, que l'on connaît, que les supporters connaissent, mais qui sont peut-être moins performants que des jeunes, peut-être que cette Ligue 1 doit...
Ça, c'est... On va laisser le temps au temps, parce que c'est pas certain que tous ces joueurs, les trois que l'on cite, ne vont pas être performants. Je suis assez surpris quand Fred dit qu'à 32 ans, on est des vieux joueurs. À 32 ans, t'es pas vieux, alors bien sûr.
Alors, Giroud à 38 ans...
Pogba, il a plus
30 ans que 32, je m'explique. Ça fait 2 ans qu'il joue pas. Donc il s'est pas fatigué sur les 2 ans.
Il a plus 40
les deux dernières saisons. Non,
il quand a, tu joues il pas a, pendant 2 ans,
en fait, il a 30 ans.
Il est encore jeune.
Mais laissons le temps au temps, encore une fois. Moi, j'attends Pogba à son meilleur niveau à Monaco. J'y crois. Et je suis certain qu'il fera partie de la sélection de Deschamps pour la Coupe du Monde, tant il va surprendre du monde. Il prend son temps pour reprendre. Donc, pour revenir à la question initiale, non, c'est très bien pour le foot français, plutôt que d'illustres inconnus qui viennent gonfler nos effectifs. Et
vous ne pensez pas qu'un club comme le LOSC aurait préféré prendre un attaquant avec plus de certitude qu'un Olivier Giroud pour remplacer Jonathan Dalmide?
Justement, c'est une très bonne question. Tu crois qu'Olivier Létang, Bruno Genesio, tu penses que c'est des débutants? Tu penses que c'est des gars qui n'ont pas l'expérience pour?
Je ne dis pas ça, mais tu vas devoir faire une saison avec Olivier Giroud.
Ludo, il y a deux questions dans ça. La première, de l'image. Est-ce que l'image est bonne? Bien sûr que l'image est bonne pour les clubs qui le prennent, évidemment. Mais est-ce que c'est un bon signe de se dire qu'on favorise le retour d'anciens? Alors oui, effectivement, tout va n'est pas un ancien, mais on ne sait pas trop où il se situe. Mais Giroud et Pogba, c'est un pas. Donc en gros, on est en train de privilégier des paris en Ligue 1. Et vous êtes en train de me dire, c'est une bonne chose de parier.
Mais ce sont
obligé de parier, c'est jamais une bonne chose.
Un joueur dans un effectif.
Voilà, c'est un joueur. il a raison.
C'est un joueur dans un effectif. Il n'y a pas tous les anciens internationaux vainqueurs de la Coupe du Monde en 2018 ne sont pas regroupés dans le même club. C'est disséminé dans un club.
Non, bien sûr, mais bon, le fait qu'ils arrivent tous.
Pogba, me dis pas que c'est pas une bonne idée de prendre Pogba. Un club français, Monaco, c'est un pari, mais c'est quand même une bonne idée. Giroud, en termes d'exemplarité, Giroud, c'est exceptionnel ce qu'il va amener au groupe lillois par son professionnalisme. Et on le voit au travers des matchs amicaux, il commence à marquer des buts.
Il a marqué un doublé contre Venise.
Thauvin, tu t'imagines le supporter lensois. Quelle bonne idée, le supporter lensois. Thauvin, il avait fait un aller-retour à Lille, et voilà pas, ces deux clubs, ils se détestent un peu quand même. Voilà pas qu'il a signé à Lens après 4 ans d'exil. Bravo!
Non, mais on dit simplement que sur le plan marketing, sur le plan de l'image, c'est pas une réussite, ça, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire.
Mais il a marqué 8 buts l'année dernière en Italie, c'est un championnat de merde, le championnat italien?
Non, pas du tout. La question, Pascal, c'est est-ce que ce championnat de France est finalement condamné à, aujourd'hui,
évidemment.
Ne recueillir que des vieilles gloires, que des anciennes légendes, entre guillemets.
Mais parce que vous pensez. Tu n'as pas les moyens de faire autrement.
J'entends, mais des absurdités. Vous pensez que ces trois joueurs, ils se situent en bas de l'échelle des salaires de leurs clubs respectifs? Mais vous êtes fous, quoi. Giroud, Thauvin et Pogba, ils font partie des top salaires.
Ils ont fait des efforts.
Les clubs aussi ont fait des efforts pour les faire venir. Oui. Donc c'est peut-être un pari, c'est peut-être un coup marketing, mais c'est aussi, j'en suis certain, pour les trois clubs, c'est un coup sportif qu'ils pensent avoir réalisé. Et les prochaines semaines, dire s'ils ont raison ou pas, les clubs.
Les dernières, quand on fait revenir Seko Fofana, qui était à Lens, justement, quand on le fait revenir en Ligue 1, même si le retour a été compliqué, je pense que son vrai redémarrage, c'est cette saison avec l'équipe entraînée par
Bey. Plus jeune, Fofana.
On se pose même pas la question. Donc, tout jeune, encore une fois, Thauvin, il n'a que 32 ans. Donc, il est en pleine force de l'âge. Et il a pour objectif, il l'a dit. Alors, on va pas se cacher. De retrouver l'équipe de France. Donc oui, passe par une bonne performance en Ligue 1, etc. Mais je comprends même pas la question. Évidemment que c'est bien. On va tous adorer les voir. Mais Giroud, c'est quand même, il faut dire les choses, c'est quand même un monument du football français. Mec, il a 137 sélections, 57 buts. Qui me dira que c'est pas une bonne idée de le revoir en Ligue 1? Je veux dire, Olivier Létang, il fait pas du bénévolat. C'est pas un philanthrope, Olivier Létang.
Encore une fois, sur le coup marketing, on est d'accord. Mais moi, la question que je vais vous poser à tous les deux, qui me paraît assez simple. Alors, écartons Thauvin, mais Giroud et Pogba, s'ils étaient à leur meilleur niveau, ils joueraient en France?
Ah bah non, c'est
conjoncturel, tout simplement.
Donc vous êtes en train de me dire qu'on les récupère seulement parce qu'on a les moyens maintenant, parce qu'ils sont pas à leur niveau.
Je vais te parler de Messi. Quand le Paris Saint-Germain recrute Messi, c'est parce que c'était conjoncturel. Il n'arrivait pas à s'entendre à Barça. Donc Paris a profité pour faire venir, Messi. C'est une conjoncture. Ah, pour toi, peut-être. Messi dans le championnat de France, c'est pas trop mal quand même.
Mbappé à son meilleur niveau, il reste pas en France, par exemple.
Ça n'empêche pas le PSG de gagner la Ligue des Champions.
C'est-à-dire qu'on est en train de se situer sur le marché de. En fait, c'est ça qui m'a pour la Ligue 1. On se situe sur le marché, on arrive à récupérer d'anciens super joueurs, mais juste parce que c'est des paris et parce qu'ils sont pas à leur prime.
Si tu veux nous dire que la Liga n'est pas l'équivalent de la Première Ligue ou de la Liga, moi je pense que Pascal va t'accorder. C'est pas un problème.
Fred, sais-tu que des grands championnats d'Europe, l'exode des joueurs français à l'étranger est conséquent? Le nombre de joueurs français qui vont pour des raisons économiques jouer dans d'autres clubs, parce que nous sommes un très bon pays en termes de formation. Ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est 50 à 60 joueurs par année qui sent bon.
Donc en fait, tu es en train de m'expliquer, Pascal, qu'on est en train de former des joueurs qui vont devenir d'excellents joueurs et qui vont partir.
Et là, tu fais revenir
des champions du monde. Ça t'empêche pas d'avoir un championnat attractif. Essaye de différencier les problèmes des droits télé, des finances et la qualité intrinsèque du championnat de France, souvent décrié, mais à mauvais escient. C'est pas normal qu'on décrie à ce point le championnat de France, parce que si tu regardes jouer le 18e contre le 19e en première ligue en Angleterre, tu t'emmerdes ferme aussi, tu comprends?
Absolument.
Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que la France a un championnat qui est de très très bon niveau. Mmh. Le fait de faire revenir des champions du monde qui sont, mis à part Giroud qui a 38 ans, mais qui est une exception, c'est pour cette raison qu'il revient, de faire revenir Pogba et Thauvin, c'est loin d'être une mauvaise idée. Alors on va, à tout niveau.
On va demander à Mathieu ce qu'il en pense, parce que Mathieu a fait le 32-16, il veut intervenir dans nos débats des GG ce matin. Salut Mathieu.
Salut l'équipe.
Salut Mathieu.
Alors toi tu es supporter lensois, hein, c'est ça ?
Alors moi je suis supporter de Lens, ouais. Et je suis quand même plutôt content que Thauvin rejoigne pour 3 ans.
Ouais.
Parce que je pense qu'après c'est du cas par cas. Hein. Alors je vais faire quand même les éloges de Giroud, même s'il est chez le rival.
C'est bien.
Giroud, on peut dire ce qu'on veut, mais il fait le job. Il a encore marqué 2 buts contre Venise cette semaine.
Et deuxième division italienne. Deuxième division italienne. Non, je constatais la vérité, ce n'est pas tout froid, Pascal.
Ouais. Non, mais c'est match amico.
Donc j'ai menti, c'est pas une deuxième division.
Il n'y a pas à s'excuser parce qu'il y a
un Lensois qui dit du bien d'un Lillois, c'est plutôt rare.
J'avoue que j'ai coupé, je suis désolé.
On va laisser Mathieu finir.
Après, moi je préfère quelqu'un de 32, 35 ans qui fait le job, qui est précis. Plutôt qu'un jeune, une auto-tamponneuse qui frappe au but et qui la met en touche, quoi. Donc,
oui, bah, d'accord.
Oui. Ouais, voilà. Après, moi, je pense que c'est du cas par cas. Ça dépend du sérieux de chacun. Il y a des mecs qui ont toujours été sérieux, qui se sont jamais blessés, qui ont fait le job. Et à côté de ça, il y a une jeunesse qui est un peu plus.
La question qu'on a quand même envie de te poser, Mathieu, en tant que supporter en soi, est-ce que c'est bon signe pour ton club? C'est ça aussi la question.
Ouais, moi, je pense,
est-ce que c'est le signe d'un club qui va bien? Voilà.
Ouais, je pense.
D'accord.
Encore une fois, moi je pense que l'âge c'est du cas par cas. Quand Ibrahimovic a rejoint le PSG, il y avait déjà un certain âge et finalement.
Après, ça c'est. PSG c'est une autre dimension.
Mais il a quand même poussé le club vers le haut.
Regarde, prenons Sidy B qui a signé à Toulouse et il a fait une très bonne saison l'année dernière. Et il est champion du monde, c'est pas du réchauffé. 2018.
Exactement.
Même si on pouvait être circonspect au départ, mais bon, c'est bien ce qu'il fait.
Non, mais après, à Lens, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Le supporter qui est avec nous,
Mathieu
pourra nous en parler. À Lens, on a un peu dégraissé. Il y a eu quelques folies, notamment pour la Ligue des Champions. On restructure le projet, avec Pierre Sage, un excellent entraîneur, et on fait venir Florent Thauvin. Comme disait Pascal tout à l'heure, si vous croyez que c'est le moins bien payé du club, là vous vous trompez, parce que je pense que Florent Thauvin, c'est tout simplement le mieux payé du Racing Club de Lens aujourd'hui. Et il faut voir tout ce qu'il va pouvoir apporter comme joueur, sa qualité, son ancienneté, et comme il a 32 ans, il va être encore très performant. Aujourd'hui, peut-être qu'il jouera plus dans l'axe et qu'il va remarquer ses 10-12 buts en Ligue 1.
C'est énorme,
dans ce championnat. Moi, je pense qu'il en est capable. C'est un formidable passeur. Aujourd'hui, Lens se restructure. Ils ont fait quelques folies, peut-être. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Et aujourd'hui, ils ont peut-être une autre vision, mais c'est pas pour ça qu'ils auront des résultats moindres, les Lensois. Donc, mais je pense que c'est évidemment une très bonne idée et un très bon signe.
Bon, Mathieu, merci beaucoup d'être venu dans les Grandes Gueules du Sport et à très bientôt, évidemment, tu reviens quand tu veux sur RMC. Voilà, bon, on a fait le tour, évidemment, on verra ça à l'aune des résultats. Je pense qu'on reparlera de ces champions du monde 2018, hein, je rappelle,
oui.
2018,
c'est pas 98.
Oui, absolument pas repris quand j'ai dit cette grosse bêtise.
En fait, le problème, c'est qu'on ne t'écoute pas.
D'accord. C'est peut-être ça le problème, effectivement.
C'est ça, le problème.
J'espère qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent.
Oui, j'espère, oui.
Parce que sinon, non, nous sommes tous, François.
On va pas rester très longtemps ici.
Les deux nostalgiques s'écoutent, là, je pense.
Oui.
Bon, la nostalgie, attends.
Dans un instant, on ouvre le dossier des GG. Tiens, écoutez-nous bien, parce qu'il y a des déclarations de Stuart Lancaster, ancien manager du Racing, l'anglais qui a dévoilé les coulisses d'un management très surprenant. Il a tenté de secouer son groupe avec des méthodes vraiment particulières. On vous explique tout dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Bientôt 11h30 en direct sur RMC, les Grandes Gueules en pleine forme. Pascal Duprat, Ludo Duchesne, Fred Veil ce matin. Dans 15 minutes, elles vont devoir débattre sur un débat qu'elles ne connaissent pas. Toujours un grand moment, c'est le débat caché et elles n'ont absolument aucune idée. Mais je vous assure, c'est assez facile. Et petit indice, chez vous, on en a beaucoup parlé cette semaine. Voilà. Et là, il n'y a plus personne qui parle.
Donc,
c'est tout ce que je voulais vous dire.
Chevalier.
Allez.
Chevalier.
On en a parlé à 9h.
Oui,
on va refaire un débat sur Chevalier.
Ouais, pas que Chevalier à 9h, on parlait de.
Oui.
Ouais. Bon,
allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement, c'est une très bonne idée. Allez, c'est l'heure d'ouvrir le dossier des GG en attendant.
RMC. Le dossier des GG.
Un dossier qui va nous permettre de comprendre les méthodes de management de Stuart Lancaster. L'anglais a quitté le Racing en janvier dernier, 5 mois après. Bah, il a balancé dans un podcast sur le comportement de ses anciens joueurs. Pour lui, ils se contentaient de leur zone de confort sans avoir envie de devenir les meilleurs possibles. Et il a parlé d'un management très particulier. On va en parler avec Julien Landry qui est avec nous. Salut Julien.
Salut François, salut messieurs. Salut, salut.
Très salut, heureux Julien. De te retrouver. Hein, ta première dans les GG cette saison, avant de lancer cette saison formidable pour notamment le club de Montpellier en rugby. Il y a la Ligue 2 également, Montpellier en foot. Bon, ça sera en Ligue 2, mais on suivra ça aujourd'hui. La reprise, exactement. Parle-nous de cette interview de Stuart Lancaster, puisqu'il a parlé, donc de, je le disais, de technique pour réveiller son groupe hein, au cours de ce podcast.
Oui. Oui, tu l'as dit. On peut dire qu'il n'a d'ailleurs pas fait dans la langue de bois au moment de revenir sur ce passage raté au Racing. Il a même clairement allumé les joueurs du Racing qui, selon lui, tu l'as dit, n'avaient pas envie de progresser, faisaient le strict minimum. Une attitude qui a fortement agacé l'anglais.
Ça a vraiment commencé à me peser alors que moi j'étais debout à 5 heures du matin pour donner le meilleur. Il y avait un groupe de joueurs dans le même état d'esprit que moi et un autre qui se contentait de ce qu'il avait. Ce n'étaient pas des fauteurs de troubles, pas des mauvais mecs, tous étaient des bons gars. Mais ils n'avaient pas cette envie de devenir les meilleurs possibles et ça m'a vraiment frustré. Ils étaient dans leur zone de confort, ça faisait longtemps qu'ils étaient là.
Et plus les semaines passaient, plus sa colère montait. Les résultats étant loin d'être au rendez-vous. 5 victoires, 5 défaites en début de saison, dont celle contre le Stade français, 40-24, qui a provoqué un coup de sang chez Lancaster. Il se souvient de son discours après match.
Alors j'ai dit, je vais vous aligner en fonction de vos salaires, du mieux payé au moins bien payé. On va vous mettre en ligne. Ensuite, on votera pour désigner le joueur le plus respecté. Puis on vous classera du plus respecté au moins respecté. Dans ma tête, ceux qui ont les plus gros salaires devraient être les plus respectés parce que ce sont eux les leaders, ceux qui montrent l'exemple. J'ai demandé aux joueurs, est-ce que vous pensez que ce sera le cas? Ils se sont dit que j'avais craqué.
Finalement, il n'a pas été au bout de son idée, mais il a malgré tout établi un classement en fonction du respect. Il s'explique.
J'ai pris la liste de l'effectif, 45 joueurs avec quelques jeunes, et je leur ai demandé de s'évaluer entre eux sur 3 critères, technique, tactique, physique et mentale, sur 10 pour chaque joueur. Chaque joueur a donc reçu 44 évaluations, on a calculé une moyenne et ensuite on a classé tout le monde. Techniquement et tactiquement, qui est le plus respecté? Gaël Ficou était numéro 1, Owen Farrell numéro 2, et ça allait jusqu'au 45e. Ça a eu de l'impact parce qu'il y avait des mecs qui se voyaient comme des cadres, comme des leaders persuadés d'avoir le bon état d'esprit. Mais il a fallu ce retour de leurs coéquipiers pour que cela crée un électrochoc. En France, ils appellent ça comme ça.
Un électrochoc qui a quand même fait flop. Hein. Après le derby, les Franciliens avaient enchaîné 4 défaites, un seul nul en top 14. Et la défaite contre Castres fin janvier aura sonné la fin de l'aventure de Lancaster au Racing.
Et ben voilà, cette interview assez passionnante quand même dans un podcast de management. Hein. Voilà, c'est un podcast vraiment assez particulier, c'est pas seulement sportif. Merci beaucoup Julien d'être venu pour nous lancer ce dossier des GG. Est-ce que vous validez ce genre de technique de management? Ça c'est une vraie question que je voulais vous poser parce qu'on l'a vu, il demande aux joueurs de noter les autres, il fait son classement ensuite en fonction d'un barème. Bon, il explique que ça a eu quand même un petit impact ensuite de voir que par exemple certains cadres ne faisaient pas partie pas sur les résultats comme nous le disait Julien.
Ce qui est le plus important, moi, j'ai envie d'entendre Pascal, c'est lui le coach. Donc il a eu des méthodes, Pascal, on l'a entendu, il y a eu des vidéos. Pascal, il savait motiver un groupe, il savait les transcender, il a fait des choses extraordinaires avec Toulouse qu'il a sauvé. Moi je trouve que de les aligner comme ça, de leur parler de leur salaire, il dit que les joueurs les mieux payés, c'est les plus respectés. Je comprends même pas la logique. Alors c'est un sport où on nous dit qu'il y a des valeurs. Là vraiment j'ai du mal à comprendre que c'est plus marcher. D'ailleurs qu'il ait pu croire, c'était quand même un ancien sélectionneur de l'Angleterre.
Ah oui, c'est pas n'importe qui Lancaster quand il arrive à Racing.
Il est plus croire que ça marche en France ce genre de méthode. Pour moi, c'est totalement en décalage avec ce qu'un entraîneur doit faire. Tu peux dire beaucoup de choses aux joueurs, tu peux les remettre en cause, mais leur parler de leur salaire, leur parler du respect par rapport à d'autres. Moi, je pense qu'il s'est totalement fourvoyé.
C'est tellement faible. Moi, si un coach me fait ça, ben moi je le note à 0,2 quoi. Sur 150. C'est catastrophique. C'est-à-dire que, en fait, tu n'as pas les armes, tu n'as pas les arguments. Déjà, tu te sers des joueurs qui sont parfois en concurrence les uns les autres pour se noter. Donc, ça n'a aucun sens. Ensuite, ça veut dire que tu ne sais pas prendre tes responsabilités. Et en plus, ça marche pas. Catastrophique.
Catastrophique.
Honnêtement, j'ai ce coach, je me rappelle même plus que j'ai eu parce que c'est
la dope. Franchement, je pense que s'il avait cité les noms, j'aurais pu, à la limite, porter un peu de crédit à ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est qu'il dit rien, en fait. Il dit, il y avait un groupe de joueurs qui arrivaient pas motivés, qui se contentaient de peu. Mais en fait, il montre son désaveu, tout simplement. Parce que la première mission d'un coach, c'est de construire des séances, c'est de mettre des outils en place pour que les joueurs progressent, pour que les joueurs s'entraînent conséquemment, et pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. C'était son rôle de faire en sorte que s'il y avait des joueurs dans l'effectif qui n'étaient pas, comment dire, des compétiteurs, c'était à lui de faire en sorte qu'ils deviennent compétiteurs.
C'est sa défaillance
ça,
qui est mise en
déjà, jeu. Déjà, voilà. Moi, il montre sa défaillance. Après, je suis désolé, il fait pas Zorro. Parce que si c'était Zorro, il aurait dû citer des noms. Il aurait dû dire un tel et un tel. Et puis après, la dernière chose, l'évaluation par les 45 joueurs de leur partenaire. Elle s'est faite, sous sein privé. Mais c'était anonyme ou il y avait le nom de ceux qui notaient ?
Non, a priori, c'était anonyme.
C'était anonyme ? Si c'était anonyme, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout.
Ça valait. Ensuite, ils montraient ça aux gens en disant voilà comment vous êtes évalué par l'ensemble du groupe.
C'est ton concurrent, tu mets qu'il est nul.
C'est biaisé, tu vois.
Toi,
tu l'as jamais fait, toi, Pascal, dans un groupe, essayer justement peut-être de les responsabiliser pour les secouer en disant là, il va falloir quand même que
bien sûr
autre chose.
Il m'est arrivé d'en allumer devant leur partenaire. Oui,
mais jamais se servir des joueurs pour allumer les autres.
Ça me regarde, c'est mon avis. Je suis l'entraîneur principal, c'est mon avis. Ça regarde même pas mes adjoints. Ça me regarde. Il m'est arrivé, ça dépend. Je dis pas que j'ai toujours bien fait. Il m'est arrivé de tancer un joueur devant ses partenaires, mais c'était volontaire. Mais après, dans la presse, j'en parlais pas. Ouais, j'ai vu plein de choses, notamment un des clubs des derniers que j'ai fréquenté, Saint-Etienne. J'ai vu de ces absurdités. Vous m'avez entendu dire un mot dans la presse ?
Non.
Aucun. Aucun. Par contre, j'ai vu des trucs, je vous dis pas, hein. Mais je peux pas le dire.
Bah, si, là, maintenant. Dommage.
Vous me prendriez pour un menteur si je vous disais ce que j'ai vu.
Ah, bah non, mais là, t'en as trop
des
dit.
Des trucs incroyables qui n'existent pas, antinomiques pour le football professionnel.
Ouais, mais ce qui se passe dans les vestiaires,
j'ai rien dit.
Mais moi, je pense qu'il veut faire le courageux. Il veut faire le courageux, mais il manque de courage. Voilà. Parce que soit, s'il veut flinguer dans la presse, il envoie les noms. C'est qui les mecs qui se contentaient de
La méthode, Pascal, de dire ça quelques mois après, de revenir dessus, de
critiquer alors qu'il a été limogé. Parle de management, justement. Moi, je trouve ça intéressant quand on n'est pas dans un vestiaire, de savoir et de connaître aussi les ficelles d'un manager quand il a quasiment plus rien sous la main pour secouer un groupe, parce que c'est ce qu'il est en train de dire.
Moi, je trouve ça hyper intéressant, effectivement. On se rend compte que le mec est complètement nul et qu'il ne faut pas du tout faire ce genre de choses. C'est parfait.
La seule chose
qui soit utile dans ça, c'est de se dire qu'il a tenté des choses et il veut se protéger en disant voilà, j'ai tenté plein de choses et on n'a pas réussi. Ce n'est pas de ma faute. Magnifique.
Ouais, c'est des excuses. Après, les coachs, ils ont plein d'armes, ils ont plein de flèches à leur arc. Moi, je garde toujours en mémoire.
Le management, c'est intéressant.
C'est plutôt des cordes à leur arc.
Je garde toujours. Les coachs, ils ont beaucoup de moyens pour faire grimper les joueurs au rideau. Je me rappelle toujours, ça va parler à Pascal, le 16 mai 2020, quand Pascal fait cette fameuse causerie à Angers et que Toulouse réussit ce que aucun club n'avait réussi en Ligue 1. Tu vois, rien que d'en parler, Pascal, j'ai des frissons. Parce que ce jour-là, quand t'as été coach, c'était fantastique. Et donc, t'as réussi à surmotiver.
Ça, c'est un volet du management. Volet parmi tant d'autres.
C'était génial.
Oui, parler de la fibre un peu personnelle de chacun, etc. Voilà, c'était aussi une technique.
En fait, à mon avis, pour obtenir la quintessence des résultats, et Fred, qui a été joueur professionnel, va pas me contredire, c'est bien mieux d'être positif avec les joueurs que d'être négatif. Il faut que tu sois le moins possible négatif. Tu peux pas fermer les yeux quand il y a des absurdités. Mais cela dit, c'est beaucoup mieux d'être positif et de faire véhiculer, hein, même quand t'as pas de résultats, les résultats escomptés, une espèce de bonhomie dans un vestiaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je préfère.
Plus l'encouragement que le bâton.
Je donne raison à Pascal à 200%, mais autre chose aussi. On respecte plus un coach ou un sélectionneur ou peu importe, qui ne s'exprime pas dans la presse et qui parle dans le vestiaire. Et ça
dans le vestiaire.
Pas du vestiaire. C'est très facile de s'exprimer dans la presse.
Parce que j'ai beaucoup de mes amis coachs qui parlent beaucoup dans la presse, mais pas beaucoup dans le vestiaire. Mais c'est mieux d'être l'inverse, hein.
Ah bah là, faut les noms, hein.
D'attraper des joueurs et puis de leur dire en pleine face ce que tu penses. Et ensuite.
Moins respecté, Pascal.
Et ensuite, t'as les journalistes qui te disent, mais on comprend pas pourquoi ils jouent pas à celui-ci. Mais ils savent pas que ça fait 15 jours qu'il fait chier. Tu vois? Et tu peux pas leur dire.
Tu peux leur dire
one to one. Jamais d'off. Donne-moi un journaliste qui m'a chopé alors que je fais du off.
Je te dis quand tu vas piquer un joueur, tu le prends à part.
Bah, il a fait one to one devant les autres, hein, c'est ce que disait.
Ah, mais ça m'est arrivé devant les autres. Ça m'est arrivé devant les autres.
Parce qu'il devait avoir des raisons, j'imagine.
Ah oui, j'avais des raisons. Mais je les tairais devant vous, mais j'avais des raisons.
Non, mais tu dis rien là, Pascal. On a tout. On a envie de savoir là. Faut faire un podcast.
Non mais franchement, là, ben, je le respecte. Hein, t'as vu, c'était quand même le sélectionneur du 15 de la Rose, le type.
Ouais.
C'est pas une trompette, le mec.
Non,
là.
Non.
Mais je comprends pas son truc là. Parce qu'en fait, il fait le courageux, mais il est pas courageux. Il est tout sauf ça. Balance-moi les noms dans la presse. À ce moment-là, je dis bravo. Là, parce qu'après, il s'expose. Le
après,
mec,
il sait que voilà, ils se reconnaîtront aussi. Il aura peut-être dit aussi entre quatre yeux. Hein,
ouais, mais toi, tu sais qui est-ce? Quels sont les joueurs dont ils se contentaient? Donc ça fait pas avancer.
Ça intéresse même pas moi, je te dis. Bon.
Fred, un souvenir comme ça d'un manager qui avait des méthodes un peu particulières,
moi j'ai eu Dusko Ivanovic, coach très très dur, et première fois que je le vois, je l'appelle coach, il m'a engueulé devant tout le monde, j'ai failli me faire pipi dessus, il dit moi je suis pas coach, c'est Dusko, la prochaine fois tu vas courir pendant 3
heures. Ah bien joué.
C'est plutôt positif ça.
Alors positif je sais pas.
Bah, il aimait qu'on l'appelle par son prénom.
J'ai eu très très peur, mais c'était positif.
Il était un peu fou lui, non?
Il était complètement fou.
Et Fred, le sélectionneur de l'équipe de France de basket, Fautou, il m'a l'air inspirant. Tu vois, j'aurais eu envie d'être entraîné par ce type, je sais pas pourquoi.
Parce que c'est un vrai meneur d'homme. C'est un énorme meneur d'homme. Il a ce caractère un peu, il vient des Landes, donc ce caractère un peu dur. Mais il est très sympathique.
Il y a du charisme, tu vois. Puis bon, il raconte pas des conneries.
Mais il connaît bien le basket, il est très sympathique. Oui. Et par contre, il déroge pas à ses règles. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Ouais.
Bon, on aura l'occasion de reparler de management dans cette émission des Grandes Gueules du Sport. C'est toujours passionnant. Et maintenant, vous savez tout sur ce qu'a dit Stuart Lancaster. Vous pouvez retrouver évidemment tout ça sur rmcsport.fr. Mais si, quand même, il a dit des choses. Après, que vous ne partagiez pas ses techniques, ça, c'est autre chose. Et c'est bien pour ça que je voulais vous en parler. Dans un instant, c'est le débat caché des GG du Sport. Donc, vous restez avec nous. On vient tout de suite sur RMC. Elles ne savent absolument rien. Elles sont dans le Schwartz, comme on dit, dans le noir. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
De retour dans les Grandes Gueules du Sport jusqu'à midi, à retrouver en podcast, vous le savez dès maintenant sur l'appli RMC. Merci à toi donc qui nous écoute en ce moment en podcast, peut-être dimanche matin, on ne sait pas. En tout cas, Fred Weiss est là, Ludo Duchesne, Pascal Duprat, il vous accompagne depuis 9h ce matin. Et tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Je précise que Fred Weiss a essayé de savoir
le producteur.
Quel était le débat caché. On lui a absolument rien dit. Parce que tout le monde doit être sur la même ligne. Le guet-apens du jour, c'est ça.
Pauline Ferrand-Prévot vient de passer la ligne. Les bras levés. Évidemment, les émotions, mais c'est la reine. Elle est seule au monde, Pauline Ferrand-Prévot, sur ce Tour de France femme. Le maillot jaune sur les épaules, deux victoires d'étape et surtout la victoire de ce Tour de France. C'est la première fois qu'elle le faisait et c'est la première fois qu'elle s'impose. Elle est juste incroyable, magistrale, la grande championne aujourd'hui. C'est elle, c'est Pauline Ferrand-Prévot, c'est notre Française. Fabuleux, extraordinaire.
Pauline Ferrand-Prévot était à l'honneur dans les Grandes Gueules du Sport la semaine dernière. On en a évidemment beaucoup parlé. On voulait évidemment saluer aussi son succès dimanche dernier. Maillot jaune, plus la victoire d'étape sur la dernière étape du Tour de France femme. La question s'est donc posée au moment où Pauline a franchi la ligne d'arrivée avec ce maillot jaune. Vous êtes forcément posé la question cette semaine. Il va falloir désormais y répondre. Pauline Ferrand-Prévot est-elle la plus grande sportive française de l'histoire ? Pascal Duprat.
Oh, c'est une colle.
Ah, c'est dur.
Ah, je vais dire non. Je vais dire non.
Fred Weiss.
Ah, je crois que je vais dire oui.
Ludo Duchesne.
Ah, je vais finir avec Fred, j'ai envie de dire oui.
C'est une bonne question, Pauline Ferrand-Prévot, que l'on pourrait d'ailleurs revoir dès la fin août au Crèze-Braise Elite, dont le départ aura lieu le 28 août à Pontrieux. Elle n'a pas encore donné évidemment sa décision. On verra si elle sera vraiment présente à cet événement. En tout cas, elle a marqué les esprits. Et tu as envie de dire oui, Ludo, toi qui adore le vélo.
Et qui adore Pauline.
Qui adore Pauline.
J'ai tellement vibré sur ce qu'elle a fait. Bon, on dit oui parce qu'on est sous le coup de l'émotion et que ça s'est passé la semaine dernière.
Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de recul.
Non, voilà, donc, mais bon, quand tu parles après de Marie-Josée Perret, que je ne sais pas, des Amini Mauresmo, des. Voilà, des.
Laure Manoudou.
Des immenses championnes, évidemment, que ça se discute et que dans le temps, on en reparlera. Sauf que Pauline Ferrand-Prévot n'a toujours pas fini sa carrière et qu'elle enchaînera sans doute par d'autres immenses performances. Mais c'est vrai qu'on attendait depuis tellement longtemps une Française ou un Français vainqueur du Tour de France. Ça représente tellement pour nous le Tour de France, tellement ça fait partie du patrimoine français ce Tour, que le gagner de cette manière, avec le maillot jaune, franchir la ligne, écraser vraiment on parlait tout à l'heure de Pogacar, mais écraser ses concurrentes et ses adversaires avec ce sourire, avec cette fragilité qu'elle a, je la trouve tellement touchante, tellement bluffante, elle s'est tellement bien préparée pour aller gagner, elle a tout, on a entendu ses parents, elle est bien entourée, elle a été bien conseillée, donc oui, on a envie de dire, moi j'ai envie de lui dire, mais oui, on t'aime et on est tellement fiers de ce qu'elle a fait. Donc oui, sous le coup de l'émotion, j'ai envie
dans
de
dans l'histoire.
Oui.
Elle est, voilà, c'est un des événements plus importants de remporter ce Tour de France, oui, pour une sportive française. Peut-être pour ça que tu as dit oui aussi.
Alors c'est pas que pour ça. Moi c'est le fait que elle s'aligne sur une, c'est le palmarès. Elle s'aligne sur une course, elle la gagne. C'est-à-dire qu'elle fait du VTT, elle gagne. Elle fait des classiques, elle gagne. Elle fait le Tour de France, elle arrive première fois, elle le gagne. Alors oui, effectivement, hein, les Marie-Jo Pérec, bien sûr, on peut en parler. Jeannie Longo, qu'on peut pas oublier non plus. Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, qui a quand même
quelqu'un. Laure Manoudou,
comme on l'a dit tout à l'heure. Mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression que celle qui est vraiment tout terrain, celle qui représente le plus de choses, et effectivement, en point d'orgue, il y a évidemment le Tour de France, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'elle a gagné, tout ce qu'elle représente, toute l'image de la gagnante française. Alors peut-être que c'est le coup de l'émotion, mais à l'instant T, c'est celle que je choisirais.
Oui, à l'instant T, on est tous d'accord.
Je demande
d'avoir un peu de recul.
On est une semaine, c'est
difficile d'avoir du recul déjà, c'est vrai. Mais en soi, ce qu'elle a fait, c'est juste incroyable. Tous les terrains qu'elle tente, elle le gagne.
Ouais, t'es championnat.
Non, mais oui, c'est incroyable, en fait.
Alors, Pascal, toi, tu as dit non, donc c'est forcément que tu as pensé à quelqu'un d'autre.
Uniquement pour une personne, Marie-Jo Pérec, 3 titres. Olympique. C'est pour ça que je pense Marie-Jo Pérec est l'athlète
ultime.
Française ultime. Ouais. Et je suis désolé parce que tout ce que vous venez de dire, l'émotion, je l'ai vécu à plus d'un titre, parce qu'en plus l'arrivée c'était à Châtel, chez moi en Haute-Savoie, et j'ai vu cette ferveur populaire pour le cyclisme féminin à l'occasion de ce Tour de France, et puis aussi ce côté naturel chez cette fille, les parents au bord de la route qui filent des bidons. Moi, c'est franchement, c'est le sport comme je l'aime, si vous voulez, et ça m'embête, mais malgré tout je dois être sa carrière n'est pas terminée, donc peut-être qu'un jour elle va le devenir, elle va dépasser Marie-Jo Pérec, je lui souhaite. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est Marie-Jo Pérec.
Parce que les titres olympiques, elle l'a eu aussi.
Elle l'a eu, oui, mais Marie-Jo en a eu davantage.
Oui,
on a eu plusieurs.
Bien sûr, voilà. Tout à fait.
Je pense que le palmarès compte.
Franchement, sur le palmarès, il y a quand même débat. Hein. Il y a un vrai débat sur le palmarès. Après, sur
elle est une fois championne olympique, Marie-Jo est trois fois.
Oui, je suis d'accord, mais
il y a la discipline aussi. Marie-Jo Pérec, elle est aussi dans un sport où les Français ne brillent pas ou ne brillaient pas. Donc véritablement, c'est un exploit aussi de s'imposer dans cette discipline ultra concurrentielle.
Comme Laure Manoudou aussi, on a tellement vibré à l'époque de Laure Manoudou, et c'est une telle championne également que
après
j'ai envie de dire à Pascal, si Pauline il la classe deuxième, pas très grave non plus.
Non, elle est quoi qu'il arrive sur le podium.
Je crois que vous l'avez cité. Ça voudrait dire pourquoi pas Jeannie Longo aussi, qui a marqué ce sport.
Qui d'ailleurs était un petit peu déçu qu'on oublie ses titres sur le Tour de France, hein, puisque c'est Tour en France.
Elle en a gagné 3.
Voilà, nouvelle
après,
génération.
Bon, c'est une nouvelle formule. C'est une nouvelle formule. C'est un tour, on va dire, plus élaboré. Ouais. Ouais. Je pense que.
Non, mais c'est la ferveur populaire qui a été exceptionnelle
aussi,
ce tour.
Aussi. Oh, avec des audiences de dingue.
Superbe. Et, ouais.
Non, puis la manière dont elle gagne, ce qu'elle dégageait. C'est vrai que les parents, la famille, cette équipe Visma.
Oui, l'émotion, quoi. On se reconnaît en elle, en fait.
Oui, c'est vrai. Voilà. Cette simplicité, elle a l'air. Et puis elle était tellement touchante à la fin.
Elle va pas t'expliquer la vie, elle va pas te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois voter, comme certains à 24 ans, ok, qui ont encore du lait derrière les oreilles, qui t'expliquent tout, tu vois. Donc elle reste à sa place, sportive. Voilà, ouais. Sportive jusqu'au bout des ongles.
De toute façon, y a pas, alors je me permets, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Les athlètes qu'on va citer, c'est des athlètes qui ont quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvais choix. Mais je suis comme d'habitude pas d'accord avec Pascal, mais c'est pas grave.
Mais je vous rejoins en termes. En termes d'émotion et en termes d'exploits pluridisciplinaires.
Ben voilà, c'est ça la question.
C'est incroyable.
Est-ce que c'est un des plus grands exploits du sport français d'avoir remporté le Tour de France de cette manière aussi?
Il n'y a pas de débat sur ça, évidemment.
Non, mais Fred, tout ce que tu as dit, je souscris. Elle s'inscrit dans une compétition, elle la gagne. Elle fait du cyclocross ou du VTT, elle gagne. Elle revient sur la route, elle gagne.
C'est une partie du VTT, j'ai appris ça.
Oui, du VTT, tu me prends sur les mots alors que je suis en train de te caresser dans le sens du poil.
Paris-Roubaix cette année,
elle se met sur une course, elle la gagne. Et c'est des courses qui sont complètement différentes et des efforts qui sont différents.
Il faut quand même dire, messieurs, que ça faisait 5 ans qu'elle avait quitté la route.
Et oui, voilà, il y a ça aussi.
Donc tu reviens après 5 ans, elle a fait une préparation, mais de barjo, celle qui l'a dit. Elle a expliqué à quel point elle avait été. Elle n'avait rien laissé au hasard. Alors que quand elle quitte, par exemple, la Vuelta, on se dit, ouais, ça y est, elle finit même pas le Tour d'Espagne. Ça va être compliqué. C'est pour partir en altitude, pour faire des stages, pour s'entraîner plus que n'importe qui. Elle a en plus géré ce Tour de France à merveille. Parce que la semaine dernière, j'ai dit un petit truc, je m'en suis voulu sur Marion Rousse. On a en plus une organisatrice fantastique dans les pas de Christian Prudhomme sur ce Tour de France féminin.
Qu'est-ce que ça avait dit comme connerie?
Je trouvais qu'on comparait un peu trop vite le Tour de France masculin et féminin. Je disais qu'il fallait laisser un peu de temps au Tour de France féminin, mais tout ce qu'on a vu, grâce notamment à Pauline et aux autres, à Demi Vollering et aux autres grandes athlètes, et même les Françaises ont été magnifiques. Donc sur ce Tour de France, c'est vrai que c'était
parce que pour décider qu'une Française, alors après c'est subjectif aussi, mais soit la plus grande sportive de l'histoire, il y a aussi le côté longévité. Et là, le coup, par exemple, par rapport à Anne-Laure Manaudou, il y a une longévité plus importante, toi, de Pauline Ferrand-Prévot, qui reste effectivement exceptionnelle. Boris, pour terminer l'émission rapidement dans les grandes gueules du sport, voulait réagir à ce débat caché. Salut Boris. Ah, c'est Bruno. Bonjour Bruno. Pardon, on m'a dit que tu t'appelais Boris. Donc je vais t'appeler Boris si ça te dérange pas. Non. Bruno, excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire sur ce débat?
Ah ben, qu'il n'y avait pas de débat.
Ah.
Quelqu'un qui est capable de gagner dans deux disciplines différentes, entre le VTT et le vélo de course, il y a tellement de vélo de route, il y a tellement de différences. C'est sûr qu'il suffit d'appuyer sur les pédales, mais c'est quand même deux sports différents et je pense que jamais personne sera capable de l'égaler parce que toutes les grandes sportives, elles n'ont jamais gagné que dans leur discipline. Mmh. Et donc elle est régulière, elle est capable de passer de la route.
Ouais, bah après c'est quand même un peu du vélo, quoi, quand même.
Bah après on va pas demander à Marie-Jo Perret que de faire du saut en longueur, par exemple.
Ouais, mais enfin. On aurait quelqu'un qui aurait gagné la Coupe du Monde en handball et en football, on aurait dit ouais, c'est un ballon, c'est tout.
Non, mais là, c'est pas. Non, mais c'est pas dissemblable, les deux sports. Je suis désolé.
Il joue avec la main et l'autre avec le pied.
C'est quand même du vélo.
Laissez Bruno.
Pour avoir fait du VTT ou de la route, oui, effectivement, il suffit d'appuyer sur la pédale, mais c'est quand même.
Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas totalement.
Là, il a raison. Il y a quand même, voilà. Il y a une adaptation très rapide de la part de.
Tu pourrais faire les GG être avec Fred Weiss, toi.
Oui, c'était le même argument. Je suis d'accord avec toi.
Bruno, à côté de Fred Weiss,
Bruno,
je dis tout de suite.
En tout cas, merci beaucoup parce que tu es venu et tu as clarifié le débat. Pour toi, il n'y a pas de débat. Et ça, on aime quand c'est clair comme ça. Merci beaucoup, Bruno, d'être passé pour parler de Pauline Ferrand-Prévot. Et tu reviens quand tu veux.
Au revoir,
ça, c'est de la faute de Kylian Vérov en régie. On revient demain.
Oh, ça balance beaucoup. Stuart Lancaster.
C'est Lancaster, oui, exactement.
Ouais. Stuart Lancaster qui présente.
Le pauvre Kylian, il se démène pour cette émission, il se fait allumer à la fin.
Ah ouais, mais voilà. C'est jamais de ma faute. Merci Pascal, merci beaucoup. À
merci
très bientôt.
À vous.
Tu reviens quand tu veux.
Salut, les amis.
Dans les grandes gueules du sport, on te retrouve bientôt. Merci Fred.
Merci beaucoup.
Et bravo pour la semaine.
Merci.
Tu reviens la semaine prochaine.
Bonjour.
Sur RMC, on se retrouve. Ludo, à demain dans les grandes gueules du sport.
À demain.
Merci beaucoup.